Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 13. À la rentrée de novembre, l'affaire Berloquin et Moga, étant complètement instruite, vint à l'une des premières audiences du tribunal correctionnel. Il bruinait ce jour-là. Mais, malgré la pluie fine et persistante qui mouillait les branches noires des tilleuls à demi effeuillés, une foule compacte encombrait dès le matin la place qui s'étend devant le modeste palais de justice de Saint-Clémentin. C'était précisément jour de marché, et tous les paysans qui avaient eu, peu ou prou, à se plaindre de la maison Moga étaient accourus pour goûter chacun leur part de vengeance. Les Saint-Clémentinois, petits bourgeois et boutiquiers, n'avaient pas non plus manqué l'occasion. Simon Moga, pendant ces 5 dernières années, les avait trop molestés pour qu'il ne leur fût pas doux d'assister à la déchéance de leur tyranno de la veille. Il n'était fils de bonne mère qui n'abandonnasse son comptoir ou n'avançât l'heure de son déjeuner pour voir cet homme, hier encore si cassant et arrogant, traîné à la barre de la police correctionnelle comme un simple vagabond. Les jaquettes de drap, les blouses courtes et les vestes de drogués se mêlaient sous les arbres. Chacun voulait avoir une bonne place pour tout observer à son aise. On était d'avance impitoyable pour le principal accusé, et, dans les groupes, on entendait des gens s'écrier, avec une joie peu dissimulée, en montrant les murs du tribunal, « Enfin, après y avoir fait passer tant de monde, il va donc y passer à son tour !» Les femmes elles-mêmes étaient venues au palais. Les hautes coiffes des métayères et des artisanes égayaient de leur blancheur mate la masse sombre des chapeaux ronds à large bord. La fine fleur de la société Saint-Clémentinoise avait voulu également jouir de la déconvenue des Moga. Toutes les épouses de fonctionnaires et de magistrats intriguaient depuis 8 jours près de M. Sourdeval pour qu'il leur réservât des places dans le prétoire. Et le président s'était mis en quatre pour les contenter. Toujours empressé et galantin, il était arrivé au palais avant l'audience, afin d'introduire en catimini les belles dames par une petite porte qui communiquait avec le jardin de la sous-préfecture. Il allait les chercher lui-même, sous la pluie, avec des airs mystérieux d'homme en bonne fortune. Il était ravi de cette occasion de serrer le bras et de couler des douceurs aux plus jeunes, en les guidant à travers les couloirs étroits et obscurs. Il leur faisait traverser la chambre du conseil, encore déserte, et les plaçait, avec d'aimables précautions, dans les bancs occupés d'ordinaire par les avoués et les avocats. Elles s'y installaient bruyamment, un peu étonnées de l'effet de leur toilette voyante dans l'encadrement sombre des boiseries de chêne. L'endroit, tout d'abord, leur donnait une sensation de froid, et elles s'y trouvaient dépaysées. Elles ouvraient de grands yeux et regardaient avec un respectueux effroi l'hémicycle peint à la détrempe, d'où un jour terne tombait de 3 fenêtres voilées de rideaux passés. Le grand Christ de bois noir qui se dressait derrière les fauteuils des juges, le bureau du tribunal tendu de drap vert, les sièges du parquet, les vieux bancs lustrés par le frottement des robes d'avocats, l'espace nu et vide réservé au public. Puis, peu à peu, elles s'apprivoisaient, rajustaient les brides de leurs chapeaux, lissaient leurs bandeaux, s'adressaient de la main et des yeux de petits signes d'amitié ou saluaient cérémonieusement la présidente qui trônait au premier rang avec les 3 demoiselles de Boisseguin. Puis, finalement, se mettaient à jaser en jetant des éclats de rire argentins qui contrastait singulièrement avec l'austérité renfrognée du lieu. 11 heures sonnèrent. Le concierge du tribunal ouvrit les deux battants de la porte du fond, et le public se précipita dans la salle avec un tumulte pareil à celui de l'eau qui sort d'une écluse. Les dames, surprises, se levèrent tout d'une pièce et, se retournant, contemplèrent avec des mines effarouchées le flot houleux de ces têtes humaines pressées les unes contre les autres et dont les masses confuses devenaient à chaque instant plus épaisses et plus orageuses. Les hommes s'invectivaient, les femmes criaient. Les deux gendarmes postés de chaque côté de la barre avaient fort à faire pour maintenir l'ordre et empêcher les plus hardis d'envahir les places réservées. Pendant ce temps, les avoués et les avocats en robe cherchaient à s'insinuer entre les crinolines envahissantes et à se caser de leur mieux dans l'espace très restreint qu'on leur avait laissé. Tout à coup, à travers les rumeurs de la foule, les chuchotements discrets et les rires féminins, une voix glapissante retentit, la voix de l'huissier audiencier qui criait « Le tribunal, messieurs, chapeau bas !» Le tumulte se changea en un grondement sourd et peu à peu, le silence s'établit. Un groupe de robes noires émergea dans l'hémicycle par une porte du fond. En avant, le président Sourdeval, l'oreille rouge et le teint fleuri, dépassant de la tête les deux juges rabougris aux figures glabres et frustes. Puis, le procureur et son substitut, tous deux maigres et austères. Enfin, le greffier obèse, trottinant dans sa robe à laquelle l'âge et l'usage avaient donné des tons verdis. Presque au même moment, un commis du greffier introduisait par la porte des témoins Simon Mauga, accompagné de Célestin et d'Étienne, Jean Berloquin et les deux avocats. Toutes les têtes se haussèrent pour voir les principaux acteurs du drame. Quelques dames avaient apporté des lorgnettes et les braquaient sans façon dans la direction de Mauga et de son fils. Le banquier, boutonné dans sa redingote, au revers de laquelle le ruban de la Légion d'honneur mettait une note rouge, resta un moment debout, arrogant, hautain, soutenant de son air dur et impérieux les regards qui convergeaient vers lui. Étienne avait les yeux cernés, la figure pâle et tirée. On eût cru que c'était lui, et non son père, qui comparaissait comme accusé. Quant à Berloquin, plus humble, plus mince et plus souple que jamais, il s'était glissé dans le banc avec des mouvements de couleuvre et s'y tenait coi, coulant de temps à autre vers les juges un regard tortueux et contrit. On commença par juger une série peu intéressante de petits délits. À l'indifférence somnolente des juges et au train dont ils expédiaient ces broutilles, on devinait qu'ils avaient hâte d'arriver à la pièce de résistance. Aussi, quand l'huissier cria de sa voix de tête « Le ministère public contre Berloquin et Mauga !» il se produisit dans l'auditoire un long frémissement, pareil au murmure d'un coup de vent qui passe sur un champ de blé. « Simon Mauga, levez-vous et sortez de votre banc !» dit le président Sourdeval d'un ton sec qui ne lui était pas ordinaire. Le banquier s'avança à la tête haute et répondit d'une voix nette et ferme aux questions préliminaires. Le président l'interrogea sur les pratiques que le ministère public qualifiait d'usuraires. Avec un grand sang-froid, M. Mauga répondit que le parquet se méprenait sur le caractère des opérations de banque auxquelles la maison s'était livrée. Il affirma n'avoir jamais exigé de ses clients un intérêt supérieur à celui de 6%, qui est le taux légal en matière de commerce. Le président l'interrompit et se mit à énumérer les faits relevés par l'accusation. Ventes à réméré déguisant des stipulations illégales. Prêts d'argent, sur lesquels les emprunteurs recevaient une faible partie de la somme en numéraire et le surplus en marchandises invendables, que Berlequin rachetait à des prix dérisoires. Usure, sous couleur de change et de rechange. Renouvellement onéreux de billets avec endos de complaisance. Bref, tout l'arsenal des manœuvres frauduleuses inventées par les prêteurs pour dissimuler la stipulation d'intérêts excessifs. M. Mauga discutait une à une les articulations du président avec une lucidité merveilleuse et un aplomb dédaigneux. Il établissait victorieusement qu'on ne pouvait appliquer aux transactions commerciales les exigences d'une légalité étroite. Il rétorquait les arguments de l'accusation avec des explications pratiques très ingénieuses. Et dans ce duel entre le magistrat et l'homme d'affaires, le magistrat n'avait pas toujours l'avantage. En terminant l'interrogatoire, M. Sourdeval, avec une certaine animation, rappela le prêt de 30 000 francs fait au docteur Desroches par l'entremise de Berlequin et reprocha au banquier d'avoir manœuvré en vue d'obtenir à vil prix le domaine de la Fénicardière. « Où sont les preuves ?» demanda hardiment M. Mauga. Le président fut obligé d'avouer que le tribunal n'avait que des présomptions et que, pour cette raison, l'accusation ne retenait pas ce délit. « Il nous manque le témoignage de la partie intéressée, » dit-il sévèrement au prévenu. « Et vous savez trop bien pourquoi le docteur Desroches ne peut plus le donner. »« Va-t-on aussi m'accuser de sa mort ?» répliqua arrogamment le banquier. Cette réponse excita dans l'auditoire une telle rumeur réprobatrice que l'huissier fut obligé de réclamer le silence et que le président menaça de faire évacuer la salle. Simon Mauga se rassit et l'interrogatoire de Berlequin commença. Celui-ci fut aussi humble que son patron avait été hautain et cassant. Il invoquait d'une voix pleurarde et pateline la miséricorde du tribunal en alléguant sa misère et son ignorance. Il n'était qu'un pauvre diable et la nécessité seule l'avait mis au service de M. Mauga. Ces messieurs les juges devaient bien comprendre qu'il n'était pour rien dans toutes ces manigances. Où aurait-il pris de si grosses sommes, bon Dieu, lui qui n'avait pas toujours de quoi manger à son contentement? Jamais il n'avait prêté un rouge liard. Il servait d'intermédiaire, signait sans lire, et voilà tout. S'il s'était douté qu'on lui fît commettre des abominations pareilles, il se serait coupé la main, certainement, plutôt que de signer le moindre bout de papier. Mais tout était arrangé d'avance à la banque, et il n'avait qu'à dire amen. « Vous entendez ?» reprit le président en interpellant Simon Mauga. « Qu'avez-vous à répondre ?»«
Rien !»
riposta froidement le banquier.
« Tout mauvais cas ignoble. »
Cet homme ment pour se défendre. Il est dans son rôle. Le tribunal appréciera s'il est vraisemblable qu'un ancien huissier signe des actes sans les comprendre.
On procéda à l'audition des témoins et le défilé des victimes de Simon Mauga commença. C'étaient pour la plupart de pauvres paysans dans le genre du père Jacquet. Le désir d'acheter un pré ou un champ les avait mis dans les griffes du banquier. Leur histoire à tous était pareille. Billets souscrits à Berlequin, escomptés et renouvelés par Mauga, moyennant d'énormes droits de commission qui grossissaient prodigieusement à chaque renouvellement. Puis, tout le cortège des poursuites. Commandement, signification, saisie mobilière, saisie Brandon, et finalement, la vente forcée à bas prix de ces mêmes lopins de terre, achetés primitivement pour une valeur triple ou quadruple. Tous ces malheureux, ébaubis par l'attirail de la justice, par les interrogations brèves du procureur et du président, tournaient leurs chapeaux entre leurs doigts, regardaient, avec une crainte méfiante, les gens de la justice, et semblaient trembler encore devant le banquier, bien qu'ils le vissent au banc des accusés. Il déposait timidement, avec force réticence et circonlocution, embrouillant à dessein leurs réponses, afin de se compromettre le moins possible. Tous ces détails d'opérations commerciales amusaient médiocrement l'auditoire, dont l'attention, tendue depuis 4 heures, commençait à se lasser. Quelques dames bâillaient derrière leur éventail, d'autres avaient tiré de leur poche des fruits et des gâteaux. Elles faisaient sans façon la dinette au nez des juges scandalisés. Elles étendaient leurs mouchoirs sur leurs genoux, mordaient dans des poires avec des mines friandes, s'essuyaient la bouche et souriaient. Tandis qu'ils se défendaient pied à pied sans broncher contre les témoins, le parquet et les juges, Simon Mauga entendait derrière lui ces bruits irritants de fruits croqués, de papiers froissés, de rires inattentifs. Au fond, la foule grouillante s'impatientait, la chaleur devenait étouffante, et au-dessus de toutes ces têtes, dans l'air épaissi de la salle, montait une lourde buée, dont les dames des places réservées combattaient les âcres émanations en respirant leurs flacons de sel.